Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
C'est difficile d'avancer dans la vie quand tu sais pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
Les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant tout le temps. Elle dit mais fais ta place. Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Puis souvent, quand tu joues l'imbécile, c'est pour faire ressortir l'intelligence. Ce que tu dis, c'est l'intelligence. C'est une forme d'ironie, en fait. Ce que tu veux faire ressortir, c'est l'intelligence. Et c'est comme ça que les gens prennent, et c'est la manière la plus humble de le faire. Parce que si t'arrives et que t'amènes de manière frontale des idées super intelligentes ou des angles super intelligents, les gens peuvent être un peu...
Ça permet de pas les prendre de haut, en
voilà,
fait.
Voilà, exactement.
Bah, ouais. En fait, c'est complètement le rôle du bouffon à la cour du roi, quoi.
Bah,
c'est un mec qui arrivait,
ouais,
qui faisait, sous prétexte d'être idiot, faisait passer des messages, finalement.
Exactement, voilà. Tu peux pas lui en vouloir parce que tu dis il est idiot. Mais là, tu dis, mais est-ce qu'il est vraiment si idiot que ça, en fait? Est-ce qu'il est pas assez intelligent pour justement avoir compris que le rôle de l'idiot est le rôle le plus intelligent à avoir?
Bah, c'est une bonne manière de commencer le podcast. Bah, salut Roman Frécinet.
Bah, salut, très enchanté.
Bah ouais, merci beaucoup de venir sur Nouvelle École.
Très heureux, merci pour l'invitation.
Je te présente rapidement, t'es comédien ?
Humoriste, ouais.
Humoriste,
ouais,
on dit, ouais.
Exactement.
Mais en anglais, ils disent comédienne pour, ouais, pour les humoristes.
Exactement.
Tu fais donc du stand-up.
Tout à fait, ouais.
Là, t'as un spectacle qui s'appelle Alors, que tu joues à la Nouvelle Scène.
Alors, je joue plus à la Nouvelle Scène, je le reprends le spectacle en octobre.
Ok.
Et ça va être... Alors, j'ai pas de certitude, malheureusement, pour l'endroit, donc je peux pas l'annoncer. Mais tout ça sera sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je suis sûr que ce sera en octobre. Et ce sera très probablement les jeudis, vendredis, samedi, sur Paris.
C'est ton troisième spectacle, je crois ?
Alors, c'est un mélange de trois spectacles et des choses qui étaient pas dans les trois spectacles. En fait, j'ai écrit une heure par an, pendant 3 ans, dans l'objectif de faire ce spectacle. Donc, j'ai écrit trois spectacles.
T'as écrit une heure de matériel par an ?
Voilà. Donc j'ai fait 3 spectacles en gros dans l'objectif d'écrire celui-ci, et à chaque fois que je me suis dit ok, ce spectacle là je pourrais le faire, ça veut dire j'en suis assez fier, bon bah on le met de côté, on en écrit un autre dont on serait assez fier, puis on en écrit un autre, puis là j'en avais 3 dont j'étais fier, et je me suis dit bon, quel est le meilleur spectacle que je peux créer avec ces 3 trucs, et je pensais que c'était la meilleure manière d'arriver à un bon premier spectacle.
Mais à chaque fois c'est une heure de matériel, tu les jouais?
Ouais.
Tu l'as joué en une heure, en entier?
Je l'ai joué en entier,
ouais. Ok. Et tu gardais jamais des bouts du premier pour le mettre... Ça, c'est intéressant de penser. Tu sais, il y a une vidéo hyper connue de Louis C.K. qui, ouais, parle de George Carlin.
Exactement.
Que je mettrai dans les références parce que sinon les gens vont... Et en fait, c'est la mort de George Carlin et Louis C.K. lui rend un hommage.
Ouais.
Et lui dit qu'il raconte une histoire où il galérait, en fait, Louis C.K. quoi. Il galérait parce qu'il reprenait toujours les mêmes 2 minutes ou 5 minutes de matériel, ouais, et ça, il essayait de les améliorer, mais ça marchait pas tant que ça. Et en fait, il entend George Carlin à la radio qui raconte que tous les ans, il jette tout ce qu'il a. Il refait recommande tout ce qu'il a, ouais. Et c'était un peu dans cette logique que,
bah,
tu disais.
Complètement.
Ça
moi, c'est après avoir écouté énormément de Louis C.K. puis à le voir arriver chaque année avec une nouvelle heure, et en fait réaliser que ce qui fait un humoriste, c'est pas ses blagues. Ce qui fait un humoriste, c'est sa capacité à en écrire. Et je m'étais mis comme défi d'écrire un premier une heure très tôt. Le premier une heure que j'ai fait, j'avais 21 ans. Et j'ai réalisé, et je me pensais pas capable de le faire.
Pourquoi?
Parce que c'était gros en fait. Mais je me suis dit, bon, je me sens pas capable de le faire, donc ça va être ça l'objectif. Donc j'avais booké la salle dans un festival, c'était sûr, c'était annoncé, il fallait que je fasse, j'avais pas le choix. Et en fait, me mettre dans cette situation-là, ça m'a fait progresser énormément. Et je me suis dit, bon, bah regarde comment on a progressé, on va le refaire.
Attends, t'as booké la salle pour être sûr d'écrire le spectacle, c'est
ouais,
ça?
Ouais.
C'est bien ça, c'est un truc que tu fais régulièrement, de mettre la contrainte pour être obligé de...
Complètement, ouais. Je pense que, après, je pense que c'est propre à chacun, mais je reste persuadé que la meilleure manière d'avancer, c'est de se mettre la pression soi-même. Il faut soi-même se fouetter, tu vois. Faut pas attendre qu'on nous mette les exigences. Faut se les mettre tout seul.
Parce que personne ne va le faire pour toi, sinon, c'est
ça? Personne ne va le faire pour toi. Moi, je sais que je marche beaucoup à la pression.
Alors, justement, il y a, j'ai oublié de, là, j'ai pas fini ma présentation, mais je voulais dire qu'aussi, maintenant, depuis janvier, t'es chez Click Dimanche
tout
et que tu fais ce qui s'appelle les dernières minutes.
Exactement, ouais.
Où tu fais un petit sketch à chaque fois, ouais. En rapport avec l'actualité.
Sur l'actualité, exactement, ouais.
Et mais je voulais donc parler de ça quand tu parles des contraintes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu un énorme rôle dans ton parcours, finalement, c'est ton père.
Ouais, beaucoup, ouais.
Et c'est intéressant sur cet aspect de contrainte aussi, parce que je crois qu'il t'a inscrit, en fait, au festival Juste pour Rire, ouais, à Montréal quand t'avais 15 ou 16 ans. Ouais, parce qu'il a capté que tu voulais faire des blagues, en fait.
Exact. Mais même avant ça, en fait, c'est lui qui a mis cette mentalité dans ma tête, en fait. Mon père m'a toujours fait fonctionner par objectif. En fait, ce qu'il l'a mis dans ma tête, c'est transformer ses rêves en objectifs. Et très tôt dans ma vie, il l'a fait. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il me disait, bon, cette année, c'est quoi l'objectif? Et on discutait
à partir de quel âge?
À partir de très tôt. À partir de vraiment très tôt.
Il y avait un objectif par an, quoi.
Il y avait plusieurs objectifs par an sur différents aspects. Puis l'objectif, c'était de les atteindre, en fait. Et j'étais très paresseux et on a mis du temps avant de trouver les objectifs qui m'intéressaient.
Qu'est-ce que t'appelles très paresseux?
Bah, parce qu'en fait, si j'aimais pas ça, j'avais une très grande capacité à m'en battre les couilles. Et j'ai toujours cette capacité. Mais sauf que, il faut juste trouver les choses dont tu te bats pas les couilles, en fait.
Et tu crois que c'était pour lui, c'était conscient de chercher comme ça des objectifs pour justement arriver à trouver ce qui te plaisait?
Bah, je pense que c'était conscient, dans l'objectif de me mettre dans un certain état d'esprit. Dans le truc de, il faut se fixer des choses à atteindre. Et qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on pense être capable de faire. Comme ça, ça nous fait progresser, en fait. Et ça permet d'avoir des visions, en fait.
Ça veut dire quoi?
Parce que c'est difficile d'avancer dans la vie quand tu sais pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence, ou par où on va, ou par où j'arrive. Et donc, je pense que c'est très important de matérialiser les objectifs.
Tu vas transformer ton rêve en objectif.
Complètement. Complètement. Et en étapes. Moi, le premier truc que je me suis dit, je vais être humoriste. Super. Bon, bah, il faut que je monte sur scène. Donc, le premier objectif, ça a été d'écrire un premier truc. Puis ensuite, d'en écrire plus. Puis ensuite, que ce soit bon. Puis que ce soit excellent. Puis ensuite, qu'il y ait des gens. Puis qu'il y ait tant de personnes. Et le truc, c'est
que à chaque fois, tu décomposes?
Je décompose beaucoup, ouais. Je décompose beaucoup. Et je travaille dans ce sens-là. Et j'essaie de faire. En fait, c'est comme si on naviguait un bateau. Bah, je choisis des caps, en fait. Je me dis, OK, l'objectif de cette année, c'est développer le niveau, par exemple. Donc cette année, je vais faire en sorte que mon niveau de blague, il soit à ce niveau-là. Et là, je vais travailler dans cet objectif-là comme un fou.
Tu sais que c'est hyper intéressant parce que j'ai lu plusieurs bouquins récemment sur ce sujet-là.
Pouvoir de l'intention, par exemple. Ça a tout un rapport avec ça aussi. Parce que je pense qu'à partir du moment où on matérialise ses objectifs, on voit dans tout ce qui nous arrive des moyens de s'en rapprocher. Parce que ça devient clair ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à, comme je disais, matérialiser exactement ce qu'ils veulent. Et c'est très important de s'asseoir et de dire, bon, qu'est-ce que je veux? Et de faire la réflexion, qu'est-ce que je veux? Et de l'écrire sur un papier.
Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout, en fait, ce qu'ils veulent. Mais si, moi, j'ai beaucoup vécu ça, ou j'ai beaucoup connu des gens qui avaient ce problème-là. C'est, ils se disent, bon, c'est sûr que c'est pas ça que je veux, tu vois, ce qu'ils font actuellement.
Ouais.
Mais ils savent pas encore ce que c'est qu'ils veulent, tu vois.
Bah alors, dans ce
cas-là. J'ai l'impression que le truc qu'a fait ton père, finalement, de te donner des objectifs, est-ce que ça a pas permis de savoir plus vite ce que tu voulais en essayant plein de trucs que peut-être t'aimais pas ou dont tu te foutais?
Ah, je sais pas, mais peut-être, je pense que ça a influé. Après, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai su quand même très tôt. Très tôt, j'ai su que c'était ça. Et puis quand il a vu que c'est là-dedans que j'étais capable de travailler sans que ça me dérange, il s'est dit, bon, bah, c'est là-dedans qu'il faut qu'on l'incite à aller. Mais il m'a incité aussi à beaucoup d'indépendance, à sortir de cette zone de confort, à se mettre dans des problèmes, en fait, à grandir vite. Et donc, quand justement, il me trouve le contact pour que j'aille à Montréal, et que je fasse assistant de production pour le festival Juste pour Rire, c'est ça l'objectif. C'est, il m'envoie là-bas pour matérialiser ce que je veux faire. Pas que je reste dans un salon à voir des humoristes et me dire j'aimerais bien faire ça. Il me dit tu veux bien faire ça? Bon bah va voir à quoi ça ressemble alors.
Attends, mais c'est incroyable parce qu'il carrément il t'envoie à l'étranger.
Ouais.
Tout seul.
Tout seul. 16 ans. Ouais.
Ouais, ouais. Et toi à ce moment-là tu te sens comment?
Ah, moi je suis très chaud. Mais il m'a toujours élevé dans cet objectif d'indépendance et de liberté. Moi, très tôt, je pouvais... En fait, il a été extrêmement sévère quand j'étais très jeune. Et ça a fixé des bases.
C'est-à-dire
J'avais une peur bleue de mon père quand j'étais jeune. Parce qu'il était vraiment extrêmement sévère. Dans le sens où il y a des choses qui ne... Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a cété des choses dans ma vie très tôt. Et donc, j'avais très tôt mon cadre de valeurs établi.
C'est important, c'était quoi, genre, par exemple, ces choses qui passaient pas?
Alors, il y avait beaucoup de choses. L'impolitesse, déjà, c'était incalculable. Ça, c'était très, très grave. La manière avec laquelle tu prends ta place dans des situations sociales. Mais je le mettrais dans l'impolitesse aussi. Par exemple, un manque d'écoute, je sais pas, prendre trop de place, de la paresse, du manque de respect aussi envers des gens, manque d'humilité aussi. Manque d'humilité, c'était très grave. Très, très, très grave, ça.
L'arrogance, tu veux dire?
L'arrogance, ou prendre des gens de haut. Ou alors laisser des gens te prendre de haut.
Ah ouais, dans l'autre sens aussi?
Dans l'autre sens, bah, c'est ce que t'apprends avec l'humilité. Quand tu prends des gens de haut, c'est probablement que tu laisses des gens te prendre de haut. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est...
Tu peux justement m'expliquer pourquoi?
Ben en fait, c'est pareil, comme les gens qui ont peur de se faire juger, ils devraient se demander, est-ce que c'est pas des gens qui jugent? Je pense que souvent, on est nos propres bourreaux, en fait. Et si on prend des gens de haut, si tu le vois très bien, ça se voit beaucoup dans des modèles d'entreprise, par exemple, ou dans des groupes. Quand tu rentres et que t'es le nouveau, okay, les gens qui font la misère, c'est les gens qui se chient dessus devant l'autorité et les gens qui sont plus hauts qu'eux. Tu vois, je vais être très vulgaire, ok? Mais... ceux qui te crachent dessus quand t'es en bas, c'est ceux qui vont te sucer la bite quand tu seras en haut. OK? Et ça, il faut oublier ça, en fait. Dans le sens où il faut se poser la question, il faut laisser personne te cracher dessus et il faut se laisser sucer par personne. Il faut laisser personne te mettre au-dessus de lui et il faut laisser personne te mettre en bas de lui.
Alors, comment ça se fait en pratique de pas laisser, quand tu dis se laisser sucer par personne, c'est par exemple,
les ramener au fait que ce que t'as, tu t'as travaillé pour l'avoir et c'est du mérite et qu'au final, c'est à leur portée aussi. Ça, c'est un bon moyen. Juste les remettre à la réalité des choses.
Tu veux dire, à chaque fois, abolir la distance un peu que les gens mettent entre toi et eux, par exemple.
Complètement.
Et leur dire non, mais il n'y a pas de distance, en fait, c'est du travail ou c'est juste.
Exactement.
Rationaliser tous ces trucs-là, en fait.
Bah, complètement. Les mettre face à la réalité de faire que si t'es en succès, t'es pas un surhumain. Et si t'es en échec, t'es pas un sous-humain. C'est tout.
Donc ça, c'est des choses qui étaient ancrées très tôt chez toi.
Très tôt, ouais.
Comment ça se fait que ton père avait cette approche-là? C'était un truc qu'il appliquait dans sa vie à lui?
Je pense qu'il y a des valeurs que ses parents à lui lui ont données aussi. Mon père vient du sud de la France. Ses parents étaient artisans. Et puis lui, très tôt, il est parti en internat. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous retransmettre. Il est parti très tôt en internat et il a gagné une grande indépendance grâce à ça, en fait. Se retrouver seul, il a trouvé ça douloureux, mais ça l'a fait grandir très vite. Et je pense qu'il a compris ça. Et après, il est arrivé à 20 ans tout seul à Paris. Mon père est parti de pas grand chose, comme tout le monde au final. Et arrivé à un statut social qui est très respectable aujourd'hui et à force de travail et d'humilité. Et aussi parce qu'il avait ses valeurs d'indépendance. Il a pris des risques et puis il a travaillé seul. Il est arrivé à Paris tout seul. Il avait 20 piges, tu vois. Et ça, je pense qu'il est très conscient du rôle que ça a dans sa réussite. Donc il a voulu très tôt nous le mettre à nous. Moi, très tôt, il m'a envoyé, comme je te disais, tout seul dans des endroits où il m'a incité à me débrouiller, en fait, à être ma propre autorité.
Donc en fait, quand t'as 15-16 ans, t'as quel âge? 15 ans, 16 ans quand tu pars?
Et ouais, j'ai à peu près 15-16 ans, ouais.
Quand tu pars là-bas, finalement, t'es déjà prêt, en quelque sorte, t'es déjà...
Je suis encore jeune, mais j'ai déjà des armes dont je peux me servir.
Et là-bas, je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que donc tu vas au festival juste pour rire,
ouais.
Et en fait, t'y vas gratos.
Parce qu'en fait, oui, je leur dis, pour qu'ils m'acceptent, je leur dis, je suis prêt à le faire bénévolement. Et tu dis ça à une production, évidemment, ils vont dire bah oui.
Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça te permet le fait d'arriver gratuitement. Et ensuite, je crois que tu vas vraiment essayer de te rendre utile le plus possible.
Ouais.
Ça te permet justement de rentrer et de rentrer en tant que partie intégrante de ce festival, en fait. Et du coup, tu vas pouvoir participer à tout, en fait. Non,
bah oui, parce qu'en fait, moi, tu sais, comme j'arrive là, puis je suis pas motivé par l'argent. Je suis motivé par la passion. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'on me donne, je suis prêt à le faire. S'il faut faire 10, je ferai 20. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut arriver à 8h, je serai là à 7h. S'il faut partir à 10h, je partirai à 11h.
T'avais déjà moi, quand même une grosse discipline, toi, non?
Mais j'étais passionné, en fait. Si tu m'avais demandé cette discipline à l'école, je te l'aurais jamais fournie. À l'école, j'avais des bonnes notes parce que j'avais de la chance. Mais j'ai jamais foutu rien de travail. J'ai jamais travaillé plus que ce qu'on me demandait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis arrivé à un moment donné où je réalisais que je le sentais pas comme un travail, en fait. Moi, c'était un kiff. Et donc, évidemment, je voulais tout voir, tout savoir, tout chercher. Je voulais me rendre utile, en fait. Je voulais mettre mes efforts à fond, tu vois. J'avais l'impression que j'avais un truc à faire.
Ça, c'est quelque chose que je pense tout le monde doit pouvoir appliquer, en fait. Si t'es intéressé par quelque chose, de te rendre utile dans le sens où presque tu t'oublies un peu, quoi.
Mais complètement.
Tu te mets complètement au service du truc.
Ben oui, mais parce que tu trouves une joie là-dedans qui est extrêmement satisfaisante. T'as l'impression de te réaliser. En fait, moi, je trouve qu'il y a un des grands problèmes. Je sais pas si c'est qu'en France, mais je trouve qu'on se méprend un peu sur le rôle du travail dans la vie de quelqu'un. Pour moi, le travail, c'est une manière de se sculpter soi-même, en fait. C'est une manière de se réaliser. En affrontant des épreuves professionnellement, on devient un être humain différent. C'est ça pour moi le vrai rôle du travail. C'est, il faut devenir un maître dans une discipline. Et quand tu deviens un maître dans une discipline, bah dans la vie, ça a des effets sur toi. Et je pense qu'il est là le vrai rôle du travail. Il est prendre une vraie place dans la société et faire de toi un humain que tu préfères, en fait.
Quand tu deviens un maître, c'est un peu genre en mode samouraï, quoi.
Mais il y a cette mentalité-là, ouais. En fait, devenir quelqu'un qui peut enseigner. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui peut devenir inspirant. C'est comme ça que je vois la définition du maître.
Et là-bas, du coup, quand t'es arrivé là-bas, tu faisais quoi, en fait? Tu faisais tout?
Je faisais tout. Au début, j'étais affilié à la partie production. Tout ce qui est production, ça veut dire qu'on est, l'oseille, on est sur amener des dossiers, aller chercher de l'eau, aller chercher des trucs, etc. Et très rapidement, je voulais travailler plus que ce qu'on me donnait. Donc, je suis allé voir la partie artistique. Donc là, s'il fallait aller chercher des trucs pour les artistes, j'étais là. S'il fallait accompagner des artistes, peu importe où, les chercher, j'étais là.
Je te coupe parce que c'est hyper intéressant, ça. En fait, t'étais dans la partie que presque tout le monde aurait tendance à décrire comme un peu chiante du truc.
Et ouais, bah essentiel.
Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, on se rend compte dans ce que tu racontes que en faisant plus, t'arrives à accéder aux autres parties du truc, en fait. Parce que souvent, je pense que on peut se dire, ou il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, je me le suis déjà dit, c'est, ah ouais, non, mais ils m'ont mis dans la partie nulle, tu sais.
C'est comme si ça t'était bien, on va te donner les parties cool.
Mais en fait, je pense que, tu sais, c'est comme si ça t'était dû d'être dans la partie cool, alors que ça se mérite.
Bah, ça se mérite, bah oui. Mais je suis d'accord avec toi, il y a toute cette idée. Et puis, c'était pas si nul. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus à la base, mais j'étais fasciné de voir tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Tous ces gens que, tu sais, on arrive dans un spectacle, on voit quelqu'un sur scène, on a l'impression qu'il y a que lui. À la limite, on est au courant pour le manager et la régie. On se dit, c'est ça, l'industrie du spectacle. Mais pas du tout. Cette salle, il a fallu la remplir. Il a fallu la louer. Il a fallu faire la promotion. Il faut s'occuper d'énormément de choses. Et ça, c'est des gens derrière qui travaillent très fort aussi.
En fait, c'est un peu une école pour toi, déjà, ce truc.
Ouais. Pour moi, c'est, une masterclass.
Et quand t'es là-bas, tu fais que ça?
Que ça. Je calcule rien d'autre. T'imagines, je suis à 16 piges tout seul à Montréal, qui est une ville de fête. Et je calcule rien. Rien. Je fais que taffer. J'ai une tante qui vit là-bas, qui m'avait hébergé, elle m'avait prêté un vélo. Je partais à 7h du matin en vélo, je rentrais à 2h du matin le soir en vélo. Je dormais, puis je partais, c'est tout ce que je faisais. Mmh. C'est fou.
Tu te disais déjà à ce moment-là, je veux faire des blagues.
Ouais.
Okay.
Mais j'avais pas encore eu les couilles de le marquer dans le béton, tu vois. Dans le sens où à l'école, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais comédien. Je disais humoriste. Je disais, tu vois, je le disais. Mais j'avais pas encore
qu'est-ce qu'on disait quand tu disais ça?
Bon, les gens me disaient c'est compliqué, c'est nanana, pourquoi tu fais des études scientifiques? C'est ce que je veux dire, parce que j'étais en S. Donc on me disait pourquoi ça, c'est compliqué, nanana, les gens ont beaucoup de... Mais je m'en foutais en fait. Je me disais tu veux faire quoi toi? Tu fais ce que tu veux. Moi je te dis c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je m'en branle de ce que t'en penses? Moi ça changeait pas grand-chose dans ma tête en fait.
Et en fait, après, t'es tombé sur... c'est une histoire que tu racontes souvent, je crois, mais t'es tombé sur Baptiste Le Caplain.
Exactement.
Qui est un humoriste qui était dans Bref, de cette bande-là.
Exactement,
quoi.
Puis ça rejoint ce qu'on dit de quand tu mets plus d'efforts, il t'arrive des trucs intéressants. Dans le sens où moi, ce soir-là, on m'avait dit, tu peux partir à minuit. Moi, j'avais dit non, je vais rester. Et j'étais resté jusqu'à au moins 2h du matin. Et j'avais aidé des gens à nettoyer des loges ou faire des trucs. Et un soir, justement, je nettoie cette loge. Et il y a Baptiste qui revient dans sa loge. Et je lui dis, écoute. J'ai envie de faire des blagues et je suis parisien et il me l'a pris un bout de papier, trois endroits où jouer, il a écrit ça sur un papier, son mail et il m'a dit vas-y. Et là dans ma tête c'était c'est possible. Lui venait de faire deux standing ovations extraordinaires devant 3000 personnes et je me dis c'est bon, on y va, on va le faire.
Ça c'est hyper intéressant, je me souviens que quand j'ai fait un stage à une époque à San Francisco dans une boîte, tu vois, start-up et j'étais vraiment à fond, puis encore une fois j'étais à l'étranger, du coup j'avais pas spécialement autre chose à foutre que d'aller bosser, tu vois.
Il y a ça aussi, je pense que sortir de tout ce cadre familial et du cadre de tes potes, ça t'aide énormément à réaliser tes objectifs.
Parce que sinon t'es toujours sollicité par des anciens trucs ou des choses qui...
Exactement, puis c'est plus facile de chiller, puis t'as le regard de tes amis aussi sur toi qui peut être très favorable comme qui peut te ralentir. Je sais pas que tes amis qui te ralentissent, c'est toi qui te ralentis avec le regard qu'ils ont
ouais,
sur toi, tu vois.
Ça, notamment si tu fais un truc créatif ou artistique ouais, où tu donnes, il y a beaucoup d'ego finalement dedans.
Et oui, et puis t'es nul au début.
Et donc je me souviens que je restais souvent tard le soir avec, je me retrouvais juste avec le boss de la boîte, quoi. Et en fait, il s'est passé des trucs de fou, mais tellement de fois, mais genre à minuit, tu vois, 1h du matin, oui. Alors que tout le monde était parti depuis des heures et des heures. Genre, il m'emmenait avec lui voir des trucs que j'aurais jamais vus sinon. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté où si tu pousses le truc un peu plus loin, c'est là que
c'est là qu'on t'en offre.
C'est dans les derniers pourcentages que tout arrive, tu sais.
Elle est là, la valeur ajoutée.
Ouais.
Exactement.
Mais ça implique de savoir aussi, vraiment ce que tu veux, parce que dans un sens tu l'appelles pas forcément sacrifice quand tu le vis si tu sais vraiment que c'est ce que tu veux,
ouais.
Mais il y a un côté sacrifice quand même, par
ouais,
exemple,
mais il y a des sacrifices qui valent la peine, tu vois ce que je veux dire, ça reste le côté sacrifice au premier sens du terme, dans le sens où tu investis quelque chose pour récupérer autre chose, et des fois tu sais même pas ce que tu vas récupérer, ça peut être des sacrifices de temps, ça peut être des sacrifices de relations, des sacrifices d'argent, des peu importe, mais des fois ça vaut beaucoup la peine.
Qu'est-ce que tu penses que t'as décidé de sacrifier toi consciemment?
Beaucoup de ma vie personnelle. Mais en même temps, et là où la vie a été extrêmement généreuse avec moi, c'est que j'ai retrouvé... j'ai sacrifié beaucoup de ma vie personnelle.
Tu veux dire amoureuse, etc.
Amoureuse et amicale. Mais j'ai récupéré dans ce milieu des amis aujourd'hui extrêmement précieux, et j'ai aujourd'hui une vision de l'amour que je préfère. Et voilà. En fait, j'ai sacrifié le confort. Et aujourd'hui, j'ai plus que ça. J'ai la liberté. Et ça, là, ça vaut très cher.
Le confort, tu veux dire, c'était les amis qui étaient naturellement là ou les...
Ouais, ou alors, tu sais, un espèce de truc où tu te poses pas de questions. T'es ni en danger, ni en sécurité. T'es dans un truc que tu maîtrises. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans quelque chose où, voilà, tu te réveilles le matin en te disant, sans te dire, ça se peut qu'il m'arrive des dingueries aujourd'hui. Tu vois, t'as une vision sur plus ou moins le long terme. Elle te fait pas forcément rêver, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le confort.
Donc, toi, ce que t'as choisi, en fait, c'est d'enlever ça?
Ouais, de galérer. De galérer.
Tu t'es dit consciemment, je choisis de galérer.
Ouais, mais parce que c'est assez inconscient, mais j'ai choisi de galérer. Mais je me disais, ça vaut la peine, cette galère-là, elle vaut la peine. En fait, ce que j'ai choisi, c'est les objectifs. Je me suis dit, je veux aller là-bas. Bon, bah, le chemin qui est devant moi, il est semé de galères. Mais je m'en fous. Si c'est ça le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, bah, on va prendre ce chemin, qu'est-ce que je te dis.
Est-ce que ça t'arrivait de te dire, oula, l'objectif, il est trop difficile, là je me suis
loué.
Non.
Non, parce que si t'arrives pas à remplir l'objectif, t'as quand même avancé. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tes objectifs, ils changent. Tu peux réaliser que tu t'es trompé sur ton objectif aussi.
Ça t'est déjà arrivé?
Ouais.
Je veux dire, t'as un exemple?
Pendant un moment donné, quand je suis sorti de l'École nationale de l'humour, là, j'écrivais énormément et je travaillais énormément. Il y a des personnes qui sont sorties en même temps que moi qui ont rencontré plus de succès. Et moi, j'avais l'impression que le succès, c'était important à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai fait ce choix de non, c'est le niveau, c'est le contenu qu'il faut. Et j'ai réalisé que j'ai eu raison. En fait, comment dire, pendant un moment donné, le manque de reconnaissance de mon travail, ça me dérangeait. Et finalement, je m'étais trompé. Dans le sens où non, j'étais dans les meilleures dispositions pour travailler des choses. En fait, j'étais trop pressé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. Là-dessus, je me suis trompé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. De vouloir des choses qui sont futiles, et la vie par chance m'a apporté des choses qui sont essentielles.
Est-ce que quand tu commences comme ça et que t'as le sentiment de pas être reconnu à ta juste valeur et que d'autres sont reconnus plus vite, surtout dans les trucs créatifs, est-ce qu'il y a des frustrations qui naissent ou des jalousies, des trucs comme
ouais,
ça?
Ouais, mais je pense que c'est quelque chose que tu vas affronter quoi qu'il arrive si t'as beaucoup d'ambition, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Je pense que c'est même un test.
Comment ça?
Bah dans le sens où t'as l'impression d'être au niveau. Et t'as pas l'impression d'avoir cette reconnaissance, t'as deux manières de le prendre. Soit tu fais naître en toi beaucoup d'amertume, et dans ce cas-là, tu resteras dans quelque chose de très sombre et tu sortiras jamais de ce sentiment. Soit tu dis, bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être reconnu pour mon travail? Et au final, tu réalises que t'avances, et tu regardes en arrière et tu dis, bah si j'étais pas reconnu, c'est parce que j'avais pas le niveau.
Ouais.
Bah oui, c'est tout.
Et que donc les autres avaient le niveau?
Ouais.
Ceux qui étaient reconnus?
Ouais, exactement.
Et donc en fait, il faut arriver à... Est-ce qu'il faut arriver à regarder leur travail pas en se sentant...
Moi, je pense que reconnaître le génie des autres, c'est un des trucs principaux pour commencer à observer le sien. Il faut... surtout dans des disciplines artistiques où il y a beaucoup d'ego, où tu vois quelqu'un qui réussit très fort, et tu peux te dire, il a de la chance, tu peux te dire, pourquoi lui, pas moi. Et je pense qu'il faut se dire, la seule chance qu'il a eue, c'est de travailler assez fort pour arriver à ces fins-là, et pourquoi lui, pas moi, parce qu'il le mérite, c'est tout.
En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a tout un aspect de long terme, en fait.
Complètement.
Tout faire sur le long terme, quoi.
Bah, faire
quand tu
beaucoup.
Dis, faire ça, faire comme un maître, et ensuite quand tu dis les bonnes raisons, et ensuite quand tu dis le niveau.
Bah oui.
À chaque fois, c'est une histoire de long terme, en fait.
Complètement. Je pense pas qu'il faut être dans le. Bah, surtout, surtout à mon âge, en fait. Surtout quand tu parles.
À 24, là, c'est ça?
24, ouais. Surtout quand t'es en construction d'une carrière, en fait. En fait, moi, je pense qu'il faut. Ce qui détermine la qualité d'une œuvre, c'est sa. C'est son intemporalité. Si t'écris une blague qui fait rire dans 20 ans, bah, t'as réussi, tu vois. Et des fois, il y a des trucs plus ponctuels qui vivent un succès plus immédiat, mais tu t'es un peu tiré dans le pied. En fait, c'est la théorie de l'escalier ou de la catapulte, tu vois.
Ah non, je connais pas.
Bah, soit, bah, elle existe pas. C'est un peu, je pense, je crois qu'on l'a inventé. Mais il y a des gens, ils se catapultent. Dans le sens où ils montent sur une catapulte, ils montent en haut. Ça va très vite, très fort. Ils sont très hauts. Sauf qu'à un moment donné, ils arrivent au sommet, ils réalisent, il y a rien qui les tient. Et là, ils tombent et dans leur chute, ils ont rien pour rattraper, pour les tenir. Et quand tu prends l'escalier, et en plus, c'est une catapulte qui, ça te prend pas beaucoup d'efforts. Et alors que l'escalier, ça prend plus de temps. Tu galères, il y a beaucoup de marches. Sauf que quand t'es en haut, bah, t'es sur du solide, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es sur des choses qui sont là. Tu peux t'arrêter là, admettons, et tu seras encore là. Et tu peux continuer de monter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je préfère, moi. Vaut mieux mettre des briques dans sa vie plutôt que sauter. Tu vois?
C'est une bonne théorie. Comment t'appliques, tu dis qu'à un moment, peut-être, tu te trompais d'objectif.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc qui a changé maintenant dans ta manière de bosser ou d'appréhender tout ça qui fait que t'es, pour être sûr d'être toujours finalement sur le bon objectif et sur le long terme?
Bah, alors ça, c'est un combat un peu de tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai apprivoisé, en fait. C'est cette idée que c'est jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais fait pour toujours. C'est quelque chose que tu dois toujours entretenir. C'est toujours du travail, toujours de la remise en question. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est frustrant, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, quand t'écris, admettons, t'écris ton premier sketch qui cartonne. Il cartonne. Et là, tu te dis, bon, bah, il faut que j'en écrive un autre qui cartonne. Sauf que si tu utilises le même processus que t'as utilisé pour le premier sketch, il va être soit aussi bon, soit mauvais. Soit moins bon. Si tu veux être meilleur, il faut que tu changes la manière avec laquelle tu travailles. Donc, tu dois être en perpétuelle introspection sur ce que tu fais. C'est comme si tu repartais toujours à zéro, mais avec des meilleures armes. Tu repars à chaque fois à zéro, mais avec l'expérience de ce que tu as vécu avant.
Il doit y avoir des moments un peu de doute ou flippant, non, du coup?
Ouais, mais c'est amusant.
Ouais.
Moi, je sais que je pense pas que je ferais ce métier si ça faisait pas aussi peur. C'est quelque chose qui me fait kiffer.
Parfois, il y a la tentation de refaire ce que tu as fait et qui a marché.
Ouais. Ouais. Mais après, je m'amuse pas. Où je m'amuse moins. Et comme je m'amuse moins, j'amuse moins les autres.
C'est ça ton indicateur pour savoir si tu vas dans la bonne direction? Le
ouais.
plaisir que tu prends?
Et celui que tu donnes. Parce que c'est.
Oui,
c'est...
parce que t'as les deux, toi, du coup.
Exactement. C'est très difficile à dissocier, tu vois. Tu sais, il y a des blagues que moi je trouvais extraordinaires et personne n'a jamais ri.
Du coup, c'est pas des bonnes blagues.
Du coup, bah, c'est pas des bonnes blagues. Celles qui sont bonnes, c'est celles que moi je kiffe et que les gens y kiffent, tu vois. Par contre, si je la kiffe pas, mais les gens la kiffent, je pense pas que je vais la faire.
Tu peux pas le faire que pour toi et tu peux pas le faire que pour le public.
Voilà.
Faut que t'arrives à trouver un terrain d'entente.
Je pense que oui.
Ok. Et c'est parce que je t'entendais parler de dans une interview, je crois, de la manière dont tu en fait, on parle de ce qui fait qu'une blague est drôle, en fait. Donc ça peut être intéressant de parler de ça parce que tu disais justement que au départ dans une vanne, tu pensais peut-être qu'il y avait que les mots, mais ensuite t'apprends à bosser tout le reste, en fait.
Bah oui, ça c'est ouais, ça. Putain, moi j'ai un prof à l'École nationale de l'humour.
Ah bah attends, mais parlons de ça parce que je suis désolé. On va revenir en arrière un tout petit peu parce que t'as fait l'École nationale de l'humour au Québec,
exact.
À Montréal. Et ça, c'est hyper intéressant.
Bah
parce
oui.
que c'est.
C'est une école unique en son genre.
Bah ouais.
Bah oui.
Et en plus, c'est un genre de laboratoire de professionnalisme un peu, non?
Bah ouais. Bah en fait, il y a un processus d'audition qui est très, très, qui est dur quand même. Tu vois, sur 300 personnes, ils en prennent 12. Tu fais une première audition.
Sélectif.
C'est très sélectif. Tu fais une première audition. Là, si t'es prise, ils en prennent 20. L'audition, tu fais juste un sketch de 5 minutes devant 3 personnes. Et finalement, t'as un stage où tu fais plein d'exercices d'impro, de trucs et tout. Ils vont voir un peu tes aptitudes. Et finalement, là, si t'es pris dans la moitié, en fait. Ils en prennent entre 10 et 14, tu vois. Et c'était formidable, en fait, parce qu'ils t'apprennent...
Attends, qu'est-ce qui fait que toi, t'as été pris, tu penses?
Moi, j'ai commencé déjà à jouer beaucoup à côté. Je suis arrivé à 18 ans à Montréal, à l'université. J'y allais très rarement. Je faisais que écrire dans les cafés, jouer dans les bars. Puis j'avais commencé à jouer beaucoup dans les soirées d'humour.
Ah, depuis ta rencontre avec Baptiste Le Caplin, finalement, tu avais commencé à jouer.
En fait, j'ai commencé à jouer à Paris quand je suis revenu de Montréal pour la première fois. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac à Paris. Et là, je me suis dit, bon, je vais être humoriste, c'est sûr. L'état d'esprit de Montréal, il me fait kiffer. Je vais être loin de ma famille, loin de mes amis. J'aurai une seule chose à faire, c'est devenir bon. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver.
Ah, donc tu t'es remis dans un cadre, en fait, consciemment, un cadre où tu étais obligé d'être là pour être un pro, quoi.
Et mon père m'a accompagné là-dedans. Évidemment, mais c'était ça l'objectif. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut.
Donc, encore une fois, il y a un côté sacrifice de j'enlève le confort, ouais. Ça ne m'intéresse pas.
Voilà.
Et je veux la performance dans mon truc, quoi.
En fait, le confort, je veux le récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas le garder. Le confort, je veux qu'il me soit rendu plus tard. Je ne pense pas que quand tu as 20, 30, même 40 piges, le confort, ce soit ce que tu cherches. Tu vois, moi, je veux du confort que si un jour j'en ai 70, 80. Là, mets-moi du confort, je suis un aïeux, mets-moi du confort. Tu vois ce que je veux dire? Mais à 20 piges, mon confort, il est déjà là. Je suis en santé, je suis jeune, j'ai tout devant moi. Tu vois, faut pas se tromper de confort. Et donc, ouais, ce sacrifice, entre guillemets, mais quand je vois aujourd'hui les résultats que ça a eu, je me dis, c'est pas vraiment un sacrifice, parce que ça a eu.
Ouais, c'est pas le bon mot, en fait. C'est un choix, quoi.
Ouais, c'est plus de l'investissement, je dirais. Plus ça. Et donc, c'est ça, je commençais à jouer beaucoup dans les bars à Montréal. J'avais déjà appris par moi-même, en fait. Et donc, quand je suis rentré à l'école, j'avais un peu de niveau. Et je pense que ça m'a aidé à rentrer.
Et là-bas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine est-ce qu'on peut t'apprendre à être drôle ou est-ce que c'était plus t'apprendre à être un pro, en fait?
Bah, c'est plus on t'apprend à être un pro.
Et ça veut dire quoi, du coup?
Bah, on t'apprend à travailler très fort. On t'apprend à prendre des risques.
Qu'est-ce que ça veut dire, travailler très fort?
Bah, écrire beaucoup et se questionner sur comment t'écris, tu vois, sur ta manière de créer. En fait, faire de ton... Être maître de ton processus de création. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'inspiration, tu vois. Ils disent, bon, l'inspiration, elle va tomber un jour, tu vois. Mais non, l'inspiration, c'est quelque chose que tu forces. C'est quelque chose que tu apprends à maîtriser,
ouais,
tu vois.
Je le dis souvent, mais je crois que c'est Woody Allen qui dit, si, j'attends l'inspiration, elle tombe tous les matins à 9h30.
Voilà, exactement. Et il se fout bien de la gueule de beaucoup de gens qui attendent. Et Verlaine, il disait un truc beau aussi. Il disait, l'inspiration, c'est un truc d'adolescent. C'est un truc qui t'arrive quand t'as 16 ans. Mais quand t'es un artiste, l'inspiration, c'est ton travail. Donc, apprendre à la maîtriser, donc tu sais, prendre des risques, écrire beaucoup, se questionner, s'instruire, essayer des choses.
Ça veut dire quoi, écrire beaucoup? C'est tous les jours?
Alors, moi, pendant une période, j'écrivais entre 5 à 8 heures par jour.
Waouh!
Ouais. Mais j'allais dans un café.
T'écrivais des blagues?
J'écrivais des blagues.
Entre 5 à 8 heures par jour?
Entre 5 et 8 heures
par jour. Tu faisais
que ça? Que ça. J'arrivais dans un café. Et voilà. J'avais des carnets. Et j'écrivais. Et il y avait beaucoup de merde. Mais je cherchais, je creusais.
Et tu les testais sur les gens qui étaient là ou pas?
Non. Non, non. Non, non. Mais j'avais déjà rencontré des amis qui aujourd'hui m'accompagnent professionnellement et puis on discutait beaucoup, tu vois. Mais le seul test, c'est le public. Donc ça veut dire que tu vas sur scène, tu sais pas si c'est bon, puis tu le joues. Puis à force de le faire, tu sens mieux si ça va marcher ou pas. Tu sais mieux où chercher. Moi, l'analogie que je fais souvent, c'est admettons, t'as un champ, ok. Et dans ce champ, c'est justement une analogie qu'on m'a fait à l'école. Dans ce champ, il y a de l'or quelque part, ok. Et bah quand tu commences, tu vas labourer tout le champ jusqu'à trouver l'or, ok. Et plus tu l'as fait, plus tu sais, plus tu apprends, plus tu te questionnes, plus tu sais où il est l'or. Plus tu cherches dans une zone plus restreinte, tu vois. Tu as moins à creuser pour trouver l'or.
Tu t'éparpilles moins qu'au début.
Exactement. C'est avant, tu laboures tout le champ. Et tu le trouves au hasard, en fait, l'or. Tu le trouves avec de la chance.
Mais tu es obligé de labourer comme un dingue pour tomber au moins une fois sur l'or.
Exactement.
Pour ensuite te
et
dire.
Et là, tu dis, bon, voilà, bah, il était là. Bon, comment j'aurais pu savoir qu'il était là sans labourer tout le champ?
Et toi, tu faisais beaucoup de bides au début?
J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Mes premières scènes, elles marchaient bien. Mais j'ai fait des bides. Ah, j'ai fait des gros bides. Moi, mon premier... Parce que tu sais, on devait jouer une fois par semaine devant le reste de la classe. Et la troisième semaine, je joue mon passage et le professeur, il m'a dit, tu m'as fait perdre mon temps. T'imagines comment c'était dur?
Cash.
Et après, la semaine d'après, je suis arrivé préparé comme jamais et j'ai débloqué des trucs dans ma tête.
Mais c'est bien du coup, ça. C'est un vrai retour...
Honnête.
Dur, mais honnête.
Honnête,
quoi.
Dur. Mais la dureté, c'est ce qu'il faut dans ces trucs-là. Faut pas être... En fait, je trouve ça mal poli d'être sympa avec les gens qui sont dans l'échec. Admettons que tu te trompes, si tu veux le faire progresser, il faut que tu lui dises que tu t'es trompé.
Et après, il y a des manières, je pense que parfois oui. Tu peux le faire de manière un peu cruelle, tu sais.
Mais
là, c'est pas cruel, ça c'est juste, ouais, voilà.
Il faut tuer l'ego. C'est pas parce que ce que t'as fait c'est mauvais que t'es un être humain mauvais. C'est pas parce que ce que t'as fait c'est nul que toi t'es nul. C'est juste que ton produit c'est nul. Il faut faire ça dans les deux sens. C'est pas parce que ce que t'as fait c'est extraordinaire que toi t'es un être humain extraordinaire. Il faut détacher.
Alors ça, c'est intéressant. Comment tu tues l'ego?
Comme ça. En réalisant que moi, si je suis applaudi, c'est pour mon travail, c'est pas pour moi en tant qu'être humain.
Ça, maintenant, t'arrives à faire la distinction?
Ouais.
Tu te dis plus, oh là, je suis trop, tu te dis plus, je suis trop fort quand tu te fais applaudir?
Ah non, non, non. Bah, je peux me dire, je suis un artiste qui, ce que j'ai fait, c'est fort. Ça veut pas dire que je suis fort. Mais ce que j'ai fait, c'est fort. Parce qu'en fait, les gens me disent que ce que j'ai fait, c'est fort. Mais moi, en tant qu'être humain, je suis pas particulièrement fort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de domaines où je suis extrêmement nul. Et en tant qu'être humain, j'ai évidemment mes faiblesses, mes défauts, enfin voilà. Il faut pas faire l'amalgame entre l'artiste et l'être humain. C'est pas parce que tu fais une bonne œuvre que toi, t'es un être humain réussi.
Qu'est-ce qui vous apprenait d'autre? Qu'est-ce que t'as appris d'autre dans ce? Parce que là, tu dis la discipline, en fait.
Ouais, la discipline,
le travail.
C'est le plus important.
C'était le plus important?
Ouais, c'est le plus important. La discipline, mais surtout l'autodiscipline. Et alors là, tu peux trouver la méthode que tu veux. Si tu n'es pas capable de te discipliner toi-même, trouve quelqu'un qui va te discipliner. Mais l'autodiscipline, c'est le truc le plus important que tu peux trouver.
Toi, tu avais un peu les deux, finalement, du coup, parce que tu avais la tienne, plus les retours qu'on te faisait.
Ouais, puis j'avais un groupe autour de moi qui était des amis à la base et qui sont devenus très rapidement mon manager et puis tous les gens qui m'entourent. Et puis, on a vécu des choses extraordinaires, puis on a une franchise folle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui...
Qu'est-ce qui fait que vous avez cette franchise
Parce qu'on a pris des risques ensemble et on a galéré ensemble. On s'est mis dans le même bateau. Et on s'est dit, si on coule tous. Donc, on va faire en sorte que le voisin ne coule pas. Et je sais que je peux compter sur le voisin pour pas couler. Et ça, c'est important.
Comment tu penses que... Je te laisse boire du... t'inquiète. Comment tu penses, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que tu dis, il y a vraiment un côté laboratoire, tu sais.
Ouais.
Genre, t'es allé dans un laboratoire ou dans une sorte d'entraînement intensif pour devenir un pro, quoi.
Ouais.
Et comment tu penses que quelqu'un qui, par exemple, pourrait pas aller à cette école, qui aurait pas les moyens, ou qui pourrait pas aller au Canada, ou bref, comment tu penses qu'on peut recréer ces conditions quand on est, genre, mettons, je suis à Paris, je suis tout seul et je me dis, j'ai envie de faire comme Romain.
Il y en a beaucoup. Tu sais, il y a pas cette école-là à Paris et pourtant, il y a des humoristes extraordinaires. Donc, il y a moyen, tu vois. Mais c'est juste cette, moi, je pense que c'est cette question d'autodiscipline. Et c'est cette question de à quel point t'es exigeant avec toi-même. Il y a des gens qui sont déterminés, mais enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Des gens, ils veulent faire de l'humour, et ben tous les soirs, ils commencent, ils vont voir des spectacles. Tous les soirs, ils vont voir. Et mais si, admettons qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont dans des soirées où c'est gratuit. Il y a plein de shows d'humour, de laboratoires, comme le Panama Café, par exemple, où tu vas, ça te coûte rien à part un chapeau à la fin. Et tu vas voir beaucoup, et là, t'apprends. Et un jour, tu te lances, tu dis, t'y vas. Et là, tu le fais. Et puis, tu le refais. Et puis, tu le refais. Et tu le refais jusqu'à ce que ce soit bon. C'est tout, en fait.
Toi, du coup, quand on parle d'autodiscipline, c'est quoi? Finalement, est-ce que tu as des routines de boulot? Est-ce que les journées sont les mêmes?
Eh bah, ben, beaucoup moins maintenant.
Tu dis qu'à une époque, justement, tous les jours, tu allais écrire tes blagues.
Eh bah, ben, je pense qu'à un moment donné, j'ai craqué le code. Dans le sens où, à force d'écrire autant, bah, j'avais plus rien à raconter à part le fait que j'écrivais. Tu vois? C'est ta vie, quand ça fait un an que tu écris 5 à 8 heures par jour. Qu'est-ce que t'as à raconter à part le fait que t'écris?
Donc il fallait vivre des choses.
Donc il fallait vivre des choses. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où j'avais réalisé que j'avais compris mon vocabulaire. En fait, j'avais plus besoin d'écrire pour avoir le schéma de la blague. J'avais l'idée et j'avais écrit tellement d'heures que je savais déjà comment j'allais le tourner une fois que je serais sur scène, tu vois. Puis en plus d'avoir écrit beaucoup, j'avais joué beaucoup. Et pareil, il y a eu cette chose de se mettre en danger. Moi, j'animais chaque semaine une soirée d'humour où je devais écrire 10 à 15 minutes de nouvelles blagues. Et j'ouvrais le spectacle. Et j'étais là chaque semaine, il y a beaucoup de public qui revenait. Donc j'avais beaucoup de pression sur les épaules et je devais écrire des nouvelles blagues. Et des fois, j'avais pas le temps. Donc il m'est arrivé d'arriver et j'avais rien. Ou alors soit t'as rien trouvé, soit t'as pas eu le temps. Et donc j'arrive, je dois faire 10 à 15 minutes de blagues et j'ai rien. Et je peux pas faire du vieux. Et là, le niveau de panique, il est intense. Mais tu débloques des choses, tu craques des choses.
T'arrives à trouver des choses quand même.
Tu n'as pas le choix. Ils sont là, les gens. Ils ont payé. Ils sont là. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix. Et donc, tu te mets en danger, tu débloques des trucs, tu sors l'animal en toi. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'écrire autant. En fait, j'écris très peu. Ce que je fais, c'est que je vis des choses et des fois, j'écris des petits bouts sur mon téléphone. J'écris pour clic quand même, mais je m'assois pas pour écrire. Quand j'écris, j'ai déjà quasiment toutes les idées dans ma tête. Je laisse les idées mariner dans ma tête, tu vois.
Mais ça, c'est un phénomène qui est dû au fait que t'as passé toutes ces heures à préparer avant. En fait, t'as créé des systèmes dans ta tête qui font que maintenant, ça va piocher rapidement, c'est ça?
Exactement. Je pense que toutes ces années à écrire énormément rend aujourd'hui l'écriture plus nécessaire. Dans le sens où je suis capable d'écrire dans ma tête. Et puis surtout, il y a ce truc de la finalité de ce que je fais dans la vie, c'est que je vais devoir parler aux gens. Donc, j'ai une idée et je vais devoir la dire aux gens. Quand tu passes par l'écriture, t'as ton idée, tu la transformes en mots, donc forcément tu la dégrades. Quand tu l'écris, forcément tu la dégrades. Et de là, je vais devoir apprendre le texte et le dire aux gens et donc le dégrader une deuxième fois.
Il y a plein de niveaux de dégradation.
C'est ça, ça veut dire que entre le moment où j'ai l'idée, que l'idée est belle, j'en suis sûr, parce que je la trouve assez belle pour pouvoir la dire devant des gens. Mais je vais la dégrader deux fois avant de la dire. C'est sûr que je vais perdre dans l'équation. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris et j'essaie de me fier beaucoup plus à l'idée qu'aux mots. Tu vois. Surtout que les mots, je sais que je vais les trouver, j'ai développé mon vocabulaire, je sais par où je vais passer. Tu vois, je sais par où je... Mais c'est assez difficile à expliquer, mais c'est quand t'as craqué le code, en fait.
Et donc, tout est dans ta tête, maintenant? C'est-à-dire que, par exemple, si tu crées du matériel que tu vas ensuite, je sais pas comment on dit, jouer devant les gens, ensuite, tu vas pas l'écrire, ce truc, tu vas le garder dans ta tête, c'est ça?
Très peu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire une fois, sur mon téléphone et je vais jamais le relire.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ça, c'est pour la scène beaucoup. C'est-à-dire, je vais arriver sur scène et je vais le jouer une première fois. Là, je vais voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si des choses n'ont pas marché, mais que j'y crois, je vais les réfléchir. Mais je ne vais pas les réécrire. Je vais les réfléchir pour le faire différemment. Je vais revenir sur scène. Et là, ce que je fais, c'est que j'écris sur scène. À chaque fois, c'est un mélange d'impro, mais je sais ce que je vais dire. Mais j'improvise mon idée. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mon idée, je sais par quel schéma je veux passer, mais je l'improvise sur scène. Et à force de l'improviser, je sais exactement où il faut que j'aille.
Mais comment tu fais pour te souvenir que c'est cette version qui a marché, pas celle-là ?
Ça, c'est parce que quand il y a un rire, tu t'en souviens. Et quand il n'y en a pas, tu t'en souviens. Dans le sens où quand il y a un rire, tu kiffes. Tu te dis ça, je ne vais pas l'oublier. Et quand il n'y a pas de rire, tu te dis, oh, je n'ai pas kiffé. Ouais. Je ne vais pas l'oublier. Enfin, je vais pas oublier que c'est nul, en fait.
Ça, les beats, c'est un truc qui arrive encore régulièrement ?
Ouais, mais on arrive à les camoufler aujourd'hui. Ça veut dire que je pense qu'à force de travailler, plus t'es un humoriste en maîtrise, plus t'augmentes ton pire spectacle. C'est Louis C.K. qui dit ça aussi.
Ton pire spectacle, le pire, c'est les gens qui sont dans la salle, tu veux
non,
dire ?
Non, ta pire performance. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à ça que tu reconnais un très bon humoriste. Son pire spectacle, les gens ils vont sortir de là contents. Lui, il va se dire, putain, j'ai été nul. Mais les gens vont dire, putain, on a kiffé. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est-à-dire qu'il voit même plus ses subtilités tellement
ouais,
le mec est fort.
C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de la chose qui fait qu'il va avoir des rires quoi qu'il arrive. Il connaît les mécanismes. Mais quand ces humoristes-là, quand ils sont dans un très bon jour, bah, ils ont des rires extraordinaires. Donc c'est vraiment ça. Il y a toute l'idée d'augmenter ton pire spectacle. Que ton pire spectacle, il soit bon.
Toi, quand tu as des mécanismes, du coup, quand tu, genre, mettons, tu fais un bide pour camoufler le truc ou...
Ouais. Ouais. Bah déjà, je fais un truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que jamais le public sente à quel moment il devait rire ou pas.
Ah, c'est intéressant parce que...
Tu vois non, je veux que son rire, il me coupe. Son rire, je veux qu'il me coupe la parole. Parce que si tu mets... Les gens, ils comprennent les mécaniques, ils comprennent le rythme. Donc, si tu fais une blague et que c'est clair que les gens voient exactement où est-ce que t'attends qu'ils rient, déjà, ça les angoisse. Parce qu'ils se disent, imagine, on rit pas. Donc là, il va y avoir un malaise. Et deuxièmement, si ça rit pas, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, et là, ça angoisse tout le monde. Mmh. Si les gens ne savent pas à quel moment ils étaient censés rire, bah alors là...
Ouais, tu veux dire que c'est un peu comme les grosses ficelles dans les blockbusters, où tu sais que là, t'es censé être voilà. Triste, que là, le héros est censé mourir,
exactement,
en fait, non, etc.
Exactement. Moi, j'essaie de faire en sorte que leur rire, il me coupe la parole. Ils savent pas où est-ce que j'attendais un rire ou pas.
Comment tu fais pour savoir si tu progresses ou pas, du coup ? Parce qu'à une époque, peut-être que c'est plus clair, quand tu passes 5-8 heures par jour, tu testes tout le temps... au bout d'un moment, j'imagine que tu dois arriver peut-être à des sortes de plateaux où tu sais pas si tu progresses ou si t'es meilleur qu'avant. Ou...
Bah, t'essaies des nouvelles choses en fait. C'est très difficile de savoir jauger le niveau d'un humoriste. C'est très difficile. Il y a des soirs où ça cartonne, des soirs où ça cartonne pas. Avec un texte que t'as fait 1000 fois, ça explose. Avec un texte que t'as fait 10 fois, ça explose pas. Mais en même temps, tu l'as fait que 10 fois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu le juges un peu à ta maîtrise de la scène, à cette histoire du pire show. Moi, j'ai l'impression que je progresse parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrive sur scène avec... Le plaisir prend plus de place que la peur, en fait. Tu vois ? Donc là, j'ai l'impression que je progresse. Je suis plus en confiance, je suis plus en maîtrise. J'ai l'impression que je peux faire passer dans la tête des gens des choses plus précises. Que je peux jouer, que je peux m'amuser. En fait, là où j'ai senti que j'ai progressé, c'est que je peux me permettre de ne pas être marrant et que les gens, ils kiffent. Ça, c'est un truc bien. C'est, par exemple, j'arrive, j'essaye des blagues. Les gens, ils rient pas, mais ils kiffent. Je peux me permettre d'être très naturel. Je peux me permettre de rentrer dans des discussions ou de dire juste ce que je pense. Et les gens, ils kiffent, en fait. J'ai gagné cette liberté-là, en fait. J'ai gagné ce, J'ai l'impression d'avoir gagné un peu plus un combat sur le regard qu'ils ont sur moi, sur une capacité de les mettre à l'aise. Sur... Mais c'est très difficile de voir à quel point tu progresses.
Et est-ce que le fait de se sentir à l'aise, de plus en plus à l'aise, du coup, il n'y a pas le risque, toi, parfois, est-ce que tu ne te dis pas, il y a le risque d'un confort,
bah oui.
Re-inconfort?
Ah bah oui, complètement.
C'est un peu toujours ça qui guette derrière, c'est toujours se retrouver dans un confort et oublier de s'en sortir,
oui.
Non?
Mais c'est là où il faut diviser les trucs, t'as le match et t'as l'entraînement. Tu vois, je me permets de faire ces trucs-là dans l'entraînement, où on essaye des trucs, mais dans le match, les exigences, elles sont claires. Il faut qu'on tue la salle. Ça, c'est...
Le match, c'est genre le spectacle dans la grande salle?
Le match, c'est... Il y a plusieurs... Moi, les matchs, je considère que c'est mon spectacle solo. Quand les gens, ils payent pour me voir, moi, ça, c'est le gros match. Ça, c'est la Ligue des Champions. Dans le sens où, là, ils ont payé, ils ont fait l'effort de se déplacer pour voir exclusivement moi ce soir. Je dois les exploser. Donc là, je vais leur donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. On n'est pas là pour faire des trucs à peu près. Pas du... Non, là, on est là pour les tuer. Pareil quand t'es invité dans un très gros gala. Admettons, t'es invité dans un très gros gala, tu fais 6 minutes, t'es avec d'autres humoristes, t'as une grosse visibilité, des gens prennent un risque sur toi. Là, pareil, il faut tout tuer. Après, quand je suis dans des plateaux sur Paris, tu sais, où admettons, des fois, il y a 40, 50 personnes.
Moi, je t'ai vu à une soirée première fois, je crois, de Yacine Bellous.
Ouais, exactement. Là, c'est pareil. Ça, c'est de l'entraînement. Tu vois. Mais tu peux faire en sorte que l'entraînement, il soit extraordinaire. Hein. C'est pas ça la question. Mais mes objectifs sont différents.
Et c'est quoi pour, par exemple, de quelle manière est-ce que tu as pris des risques, disons récemment, sur un entraînement ou... Enfin, c'est pour voir un peu comment est-ce que tu fais pour...
Ouais, bah là en ce moment, je joue un passage que je connais pas trop. Et à chaque fois, il sort différemment. Et donc, je le fais. Et puis surtout, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je monte sur scène en sachant pas exactement ce que je vais raconter. Et donc, je choisis dans mes idées sur scène, sur place. Ça permet de sortir de cette zone de confort. Tu trouves des blagues sur scène aussi. J'essaye des choses.
T'en as qui deviennent sur scène?
Ouais, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et puis, il y a un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais à une soirée d'humour, j'allais jouer. Puis là, j'avais rien de nouveau à essayer. Et je jouais dans 20 minutes. Je me disais, putain, j'ai rien de nouveau. C'est-à-dire là, je vais jouer très confortable. Mais j'aime pas ça. Puis là, j'ai pris mon téléphone, je dis, OK, on écrit une blague là. Et on la joue. Et donc, j'ai écrit une blague là. Je me dis, de quoi on peut parler? Donc j'ai regardé de quoi à peu près j'allais parler, je me dis on rajoute des blagues là-dedans. Et donc j'ai écrit des blagues 20 minutes avant et je les ai jouées. Et ça a marché.
Ça a marché.
Mais ça a marché. Donc c'était super.
Il y a est-ce que maintenant que tu commences à être un peu de plus en plus installé, disons, tu crames pas trop là?
Non, je suis bien.
Okay. Est-ce que depuis que tu es disons de plus en plus installé, tu fais justement ce que tu disais tout à l'heure où tu disais le but c'est d'arriver à apprendre aux gens. Est-ce que maintenant il y a des gens à qui tu essayes d'apprendre des trucs?
Bah apprendre c'est difficile, tu vois, mais essayer d'être inspirant pour des gens, c'est... Moi je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que je trouve extrêmement inspirants et que j'ai trouvé inspirants dans mon parcours et qui m'ont appris des choses à leur insu. Tu vois, que juste en les regardant. Ah, moi il y a un mec qui s'appelle Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste qui a eu un rôle énorme dans ma vie, un humoriste québécois que j'espère un jour aider à ramener en France, ou s'il a pas besoin de moi pour venir en France, tant mieux. Moi je veux juste qu'il arrive en France et qu'il fasse rire les Français parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire ce gars-là, extraordinaire. Et ce gars-là, je l'ai beaucoup regardé jouer. Et il m'a appris plein de trucs. Et j'aimerais évidemment avoir ce rôle-là.
Qu'est-ce que t'as appris, par exemple?
Une manière d'aborder des sujets. Justement, l'une des leçons, c'est que tout peut être marrant, tu vois. Tout peut être marrant. Qu'il faut dire la vérité. Et des manières de gérer les tons, les salles aussi, des manières...
Ça veut dire quoi, il faut dire la vérité? Parce que ça a l'air... C'est une phrase, je trouve que c'est pile le genre de phrase qui a l'air bateau, mais qui en fait est profonde, tu vois.
Ah, parce que souvent, tu sais, quand t'arrives sur scène, c'est un peu du mensonge, dans le sens où c'est une mise en scène. Les gens savent très bien que ce que tu fais, c'est préparé. Mais il y a un moyen d'atténuer le mensonge, c'est d'écrire des choses qui sont vraies, en fait. Partir de la vérité. En fait, être authentique le plus possible, pas vouloir se donner le bon rôle, pas essayer de vendre aux gens quelqu'un que tu n'es pas. C'est faire rire les gens avec quelqu'un que tu es, tu vois.
Toi, tu t'arrivais à le faire dès le début?
Non. Non, parce que j'avais pas entamé cette réflexion sur qu'est-ce que je connais de moi. Je regardais beaucoup à l'extérieur, alors je pense qu'un des trucs cruciaux quand t'écris des blagues ou quand t'écris n'importe quoi, c'est de regarder à l'intérieur plutôt.
Comment tu fais pour regarder à l'intérieur?
Bah, par exemple, quand je vois une situation, au lieu de regarder que la situation, je regarde ce qu'elle éveille en moi. Tu vois, je vois une situation et je me dis, OK, elle me rend jaloux. Pourquoi? Est-ce que j'ai raison d'être jaloux? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que je suis jaloux? Tu vois ce que je veux dire? Je vois une situation et je me dis, elle me rend content. Pourquoi? Mais je devrais pas être content. Si les gens sont au courant que je suis content quand je vois ça, mais ils vont me prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux dire?
Donc c'est ce décalage, en fait, qui crée le matériel.
Je pense que oui. Je pense que c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui crée... C'est ça que les gens veulent aussi. Les gens veulent être rassurés sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent. Tu sais, il y a souvent une phrase extrêmement bateau en humour, d'ailleurs, qu'on dit plus du tout parce qu'elle est trop bateau, mais elle est représentative de ce truc-là. C'est que les gens, ils disent, avez-vous remarqué ? Les gens, ils veulent qu'on leur fasse ressentir à quel point on se ressemble. Je pense que c'est un des trucs que les gens veulent voir. Et pour faire ressortir ça, je pense qu'il faut être le plus authentique possible.
Est-ce que c'est pas un peu quelque chose qui est commun à toute forme d'art, le côté ça transcende ?
Je pense que oui.
Dans la musique aussi, où tu ressens en fait.
Complètement.
T'es plus dans la tête, t'es dans le,
voilà.
Dans le ressenti.
Et je pense qu'il y a même aussi un clash entre la tête et le ressenti. En se disant, ma tête trouve que ça c'est juste, et pourtant, mon cœur sent ça.
Parce que
là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser.
Ouais, et d'ailleurs, on le voit dans les spectacles, quand un spectacle d'humour cartonne, vraiment, où c'est très, 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 très drôle, et bah, les rires qui sortent des gens, c'est plus les rires de la tête, tu vois.
Voilà.
C'est plus le rire contrôlé de. C'est avoir un rire physique. Stylé.
Ouais. Exactement. Il y a un moment donné où le rire est un réflexe. Et c'est ça que les gens, ils veulent. Ils veulent un rire qu'ils sont incapables de contrôler. Parce que je pense que tu fais écho à quelque chose qu'eux-mêmes ne sont pas capables de contrôler. Que personne. C'est un rire instinctif. Ce n'est pas quelque chose que tu décides. C'est quelque chose qui te surprend, un rire. Et donc, pour ça, il faut parler à.
Ça veut dire qu'il faut une très grande liberté d'expression aussi.
Ouais. Et puis, il faut beaucoup d'écoute. Il faut beaucoup d'écoute. Et puis, il faut. Ouais, en fait, surtout de l'écoute, en fait. L'écoute, autant s'écouter soi que s'écouter les autres.
Est-ce que tu penses que pour développer ça, il faut accepter peut-être d'être seul ou de passer ouais. du temps à s'ennuyer ou
ouais.
tu sais, pour, parce que si tu dis que le but est de se trouver, de s'écouter,
ah,
et de
oui.
voir ce qui ressort, ça veut dire qu'il faut aussi voir les angoisses en face, non ?
Ah oui, moi je suis très partisan de l'ennui. Je pense que l'ennui est le plus grand moteur de création et de créativité. C'est dans l'ennui qu'on se rencontre et qu'on trouve les vérités. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont cette incapacité à être seuls et qui sont en perpétuel remplissage du vide de l'existence. Tu sais, parce qu'on est tous confrontés à cette question.
Moi, j'ai beaucoup été comme ça. Hein.
Tu sais, où tu vas te dire, OK, bon, bah là, je vais boire comme un fou cette soirée-là. Puis là, il faut que je fasse des activités. Cet après-midi, j'ai rien à faire. Il faut que je m'occupe. Il faut que je. Et il y a des gens que c'est par des activités qu'ils arrivent à se rencontrer et se creuser. Moi, je préfère me creuser dans le rien du tout. Il m'arrive extrêmement souvent, et c'est même pas mal ça mon processus créatif, soit je marche et j'ai aucune direction, je vais nulle part et j'ai rien à faire, et je dois accepter que je vais à nulle part, que j'ai rien à faire, que je me fais chier et que c'est vide, et c'est là-dedans où je dois être ma propre source de divertissement. Donc c'est là où je me rencontre un peu aussi, où je me fais rire, tu vois. Et aussi des fois je suis en terrasse de café, complètement dans la contemplation. En fait, c'est ça que ça amène, l'ennui. Ça t'amène vers cette contemplation. Et moi, je trouve qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui arrive à faire réaliser aux autres à quel point on vit dans une création extraordinaire. C'est plus ça. Je pense que l'artiste est plus un traducteur qu'un créateur. Tu sais, il y a ce grand débat, est-ce qu'on est la source des idées ou est-ce que les idées passent par nous? Et je pense que les idées passent par nous. Je pense pas qu'on en est la source. On est la source de la manière avec laquelle on retranscrit ces idées. C'est là qu'est d'ailleurs la qualité souvent d'un artiste, la manière avec laquelle il transmet ses idées. Mais je pense pas qu'on est les auteurs des idées.
Tu veux dire qu'on doit pouvoir créer les conditions dans sa vie pour pouvoir attraper les idées ?
Je pense que oui. Je pense qu'en fonction de ce que tu fais et de tes choix, la vie te présente des idées diverses et variées. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les idées de tout le monde.
Parfois, ça t'arrive de te laisser embarquer dans le flow et de plus avoir le temps, plus assez con à dire, mais de plus avoir le temps de t'ennuyer.
Un peu. Mais j'essaie d'organiser du temps pour m'ennuyer. C'est ça qui est fou.
Ouais, c'est parce que pour moi, c'est un peu un combat. Tu vois, je suis très. De plus en plus, je suis convaincu que c'est très important.
Très important.
Il faut que je m'ennuie de plus en plus. C'est con à dire. Hein, parfois, je vois des gens, je leur dis non, mais là, il faut vraiment que je m'ennuie plus. Et tu sais, les mecs qui sont là, bah, qui te racontent.
Et mon père, il n'y a pas longtemps, il m'a dit ça. Il m'a dit dans ton éducation, ça faisait partie du truc. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'un adolescent, il faut qu'il s'ennuie. Il ne faut pas le surcharger. Parce que, tu sais, il y a des adolescents. Ils vont à l'école, ensuite ils ont le sport tous les soirs, ensuite ils ont truc, ils ont tout, plein de trucs, ils sont jamais seuls avec eux-mêmes à rien foutre. Alors que j'ai le sentiment que c'est là que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où t'as personne pour t'influencer en fait. C'est le seul moment où tu peux avoir la voix la plus honnête envers toi-même, c'est la tienne. Tu dis bon, je suis un con, je suis pas un con. Tu vois ce que je veux dire ? À quel niveau je suis intéressant ? Où est-ce que j'ai à progresser ? Qu'est-ce qui me fait kiffer quand je suis seul en fait ?
Maintenant, avec le fait que tes spectacles fonctionnent, que tu sois à la télé, disons, que tu commences, disons, à être connu, je t'imagine que tu dois être de plus en plus sollicité.
Ouais.
Et si tu veux continuer à conserver cette capsule un peu d'ennui ou de temps pour toi, tu dois apprendre à dire non, j'imagine, non ?
Ouais, après, je suis très aidé pour ça.
Comment t'es aidé par ta...
J'ai un manager extrêmement fort, qui est un ami justement de Montréal, que j'ai rencontré, puis toute une équipe, et c'est lui qui s'occupe un peu de tout ça pour moi. Il dit le nom à ma place très souvent.
D'accord, ouais. Ok.
Et puis...
Et dis non à quoi, du coup ? C'est quoi la règle ? Est-ce qu'il y a des règles ?
Ouais, il y a des règles, ouais. Bah, il y a une règle qu'on nous avait dit à l'École nationale de l'humour, que moi j'aime beaucoup. C'est qu'il y a trois pôles intéressants pour accepter un projet. Soit les gens avec lesquels tu le fais, t'as envie de travailler avec eux et t'as envie de les rencontrer. Soit l'argent, t'es très bien payé, ou t'estimes que t'es bien payé pour ce qu'on va faire. Soit le projet en tant que tel, artistiquement, il te chauffe. Et ben, ils nous ont dit accepter un projet quand il y a deux de ces choses-là.
C'est marrant, c'est un truc que je viens de lire, ouais, il y a une semaine, mais tu sais, sur un post réseau social un peu...
Un peu bateau,
c'est un
ouais.
Peu à la... Mais j'étais là, ouais, c'est pas
mais
con.
C'est très
ce
intéressant. Et moi, c'est un peu ça souvent. Ça veut dire que si c'est mal payé, okay, ou même pas payé, mais je suis avec des gens que j'aime beaucoup, ou du moins qui m'inspirent, ou j'ai envie de travailler ou de rencontrer, et que le projet artistiquement, il m'intéresse, je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. Si je suis très bien payé, je travaille avec des gens que j'adore, mais le projet, il est claqué, ça se peut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça se peut que je le fasse. Et si le projet me kiffe, je suis très bien payé, mais je travaille avec des cons, je vais le faire. On me bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, des cons, ils sont pas forcément cons dans l'absolu, mais on n'a pas d'affinité. Bah, je vais le faire quand même. C'est un peu ça la règle, tu vois. Et après, il y a au feeling.
Ouais.
Après, il y a au feeling où tu te dis, bon, bah, tu sais quoi, mon instinct, il me dit d'y aller. Puis là où j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas.
Donc, ouais, t'as quand même un système de filtre qui t'empêche d'avoir à prendre des décisions tout le temps.
Ouais, puis il y a cette idée de. Tu sais, ma direction, elle est fixée, dans le sens où j'ai un objectif. Les choses qui me font perdre du temps pour mes objectifs personnels, je ne vais pas les remplir. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je fais à côté, en parallèle, c'est des choses que... Est-ce que je suis capable de l'inscrire dans ma course à mes objectifs ou pas? Si ce n'est pas dans la course à mes objectifs, bah, je ne vais pas le faire, en fait.
Donc, ce que ça implique, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est essentiel, en fait.
Bah, je pense que oui. Où est-ce que tu t'en vas? Sur des courts, moyens, long terme. Et ça, ça peut changer.
Toi, tu le sais. Par exemple, tu le fais. Là, par exemple, tu pourrais me dire, je vais là à court terme, là à moyen terme, ouais. Là à long terme.
Ouais. Ouais, ouais, je sais à peu près où je m'en vais. Mais ça change. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça ouais. Change. Et puis surtout, à un moment donné, les objectifs, je pense, c'est intéressant de pas les fixer dans quelque chose de matériel. Tu vois, genre par exemple, on se dit, je veux faire telle salle. Je veux avoir tant d'oseilles. Je veux avoir tant de quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça, c'est pas les vrais objectifs.
Parce que tu les contrôles pas?
Au-delà de ça, parce que... Le processus pour les avoir est pas forcément celui qui va faire de toi quelqu'un de plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que tu pourrais prendre des chemins qui sont pas utiles pour arriver à ces objectifs. Tu
ouais,
veux
et puis je pense qu'il y a des objectifs qui vont t'amener ça et d'autres choses en plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple quand tu te dis je suis dans un objectif de que mon niveau augmente. Si ton niveau augmente, ton oseille va augmenter. C'est sûr. Si t'es le meilleur, on va t'appeler. Si ton objectif c'est que de l'oseille, bah, tu vas tout faire pour avoir l'oseille, mais par où tu passes, tu vois ce que je veux dire? Il y a des objectifs qui, je pense, sont plus, qui ont des conséquences plus intéressantes. Par exemple, il y a des gens qui disent mon objectif c'est d'avoir être très connu. Ok, ça son objectif. Mais tu dis mais tu peux être connu pour de mauvaises raisons. Tu peux être connu mais pas aimé. Il y a une différence entre être connu et populaire. Tu peux être connu par des personnes qui s'en foutent. Tu sais, on peut te connaître, mais c'est pas parce que t'es connu que les gens ils vont acheter des billets pour ton spectacle. C'est parce que t'es connu qu'ils t'aiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es connu que t'es bon. Il y a ce truc-là aussi. Donc moi, je pense que l'un des plus grands objectifs, ça reste celui du niveau.
Alors en fait, ce dont j'ai l'impression quand tu parles, c'est que ce qui différencie les deux types d'objectifs, c'est qu'il y en a un qui est basé sur l'intérieur,
ouais.
Typiquement mon niveau, quel genre de personne je suis, etc. Il y en a un qui est basé sur l'extérieur, typiquement exact. Comment on me perçoit, quels éléments extérieurs je possède, que ce soit d'argent, de relations, de machin. C'est ça un peu la...
Exactement, ouais. En fait, je pense qu'il y a même un moment donné où les objectifs, ça devient plus des états d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est compliqué. Mais par exemple, moi, un de mes objectifs, là, c'est une liberté. Je sais que mon objectif sur les trois prochaines années, je veux dans 3 ans une très grande liberté artistique. C'est ça l'objectif que je me suis fixé.
Parce que tu l'as pas, là?
Je l'ai, mais j'en veux plus.
Ça veut dire quoi, plus?
Bah, je veux avoir l'opportunité de faire ce que je veux sans que personne ait l'occasion de me dire non. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça veut dire que ça, il faut avoir ta structure ou
ton... Pour ça, bah, c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir ma structure, il faut avoir un public, il faut avoir un niveau intéressant, c'est ça qui va amener le public. Il faut avoir le temps et les outils pour travailler. Et il faut, je sais pas, il faut se creuser la tête. Il faut être bien entouré.
Ce qui est intéressant, c'est que tout ce système de valeurs que tu as développé, finalement, il te permet de prendre des décisions assez importantes. Je sais qu'il y a eu... Alors, j'ai oublié les détails, mais je sais qu'il y a eu un moment où tu as failli rentrer dans un... comment ça s'appelait déjà merde, j'ai oublié le nom.
Avec Juste pour Rire.
Voilà.
Oui, bah rire. Oui, par exemple.
Il ouais. y a eu une affaire, un scandale avec le fondateur, le président, qui était. Des journaux ont publié des articles sur des potentielles agressions sexuelles. Exactement. J'ai pas suivi ce qui s'est passé ensuite.
Mais c'est ça, ouais, complètement.
Et tu devais rentrer, tu devais faire partie de ce truc. Et puis, quand c'est sorti, t'as dit, bon, bah, en fait, non, je vais rester indépendant, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
Et du coup, c'est tout ce système de valeurs, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, la décision.
On a été dans la merde. Ouais, ouais. On touchait, en fait, on a galéré pendant très longtemps. On arrivait à une forme de sécurité. Et puis, à 2 semaines de signer de la sécurité, y a ça qui saute. Et puis, on se dit, c'est quoi le plus important? Ça fait 5 ans qu'on galère, on commence à maîtriser la galère. C'est quoi le plus important? Moi, je pense que la sécurité, c'est pas la première chose qu'il faut chercher.
En fait, quand tu t'habitues à la galère, finalement, est-ce que tu deviens pas un genre de résilient, quoi?
Ben oui, moi, c'est ça que je préfère. Et ça, par exemple, c'est une forme de confort extraordinaire. C'est-à-dire, vaut mieux, tu sais, soit tu construis un univers dans lequel t'es très à l'aise.
Mais ça, c'est du confort, en fait.
C'est du confort.
De pouvoir se remettre comme hyper facilement des difficultés.
Une forme, une capacité d'adaptation, c'est le meilleur confort. Parce que c'est, en fait, dans le sens où il y a deux types de confort. Il y a des gens qui se créent un monde, ça peut être autant matériel que émotif ou personnel, dans lequel ils sont confortables. Mais à la seconde où ils en sortent, ils sont plus confortables. Si tu te crées la capacité d'être à l'aise dans toutes les situations, là, tu touches à la vraie liberté. Je pense. Et ça, c'est le plus important. Et avoir cette capacité d'être bien partout, avec n'importe qui, ça, c'est précieux, ça.
Comment tu le développes, alors, si tu pars de... Si t'écoutes ce podcast et que tu te dis « Ouais, en fait, il a raison, comment je vais faire ?»
Bah, je pense qu'il faut un grand sens de la découverte et de l'aventure, entre guillemets. Moi, je pense que voyager seul, c'est un très bon moyen. C'est même quasiment le meilleur moyen. Voyager seul, prendre des risques, essayer des choses, se tromper, être à l'écoute et à la rencontre des gens, accepter des discussions avec des gens avec qui a priori t'aurais pas aimé, essayer de les comprendre. Tu vois ce que je veux? On n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens, mais je pense qu'on devrait être obligé d'essayer un minimum de les comprendre. Tu vois? Ça t'aide à être à l'aise avec les gens. À partir du moment où t'es pas dans l'objectif de forcément être d'accord avec eux, mais t'es dans l'objectif de les comprendre, ou du moins de les tolérer autour de toi. Tu vois? De se dire, ce gars-là, je partage pas les 3/4 de ses idées. Très bien, mais c'est pas pour ça que je vais refuser le dialogue. Je vais respecter ses idées, je vais exiger qu'il respecte les miennes, mais je vais pas le bannir de ma vie, tu vois.
C'est-à-dire qu'il faut créer le contact avec toutes les choses qui sont juste à la frontière de ton confort.
Puis accepter la découverte, accepter de se perdre en fait, accepter de sortir des trucs. Moi, je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est que tu voyages tout seul et tu te perds. T'as pas de plan prévu. Tu descends de l'aéroport, tu te dis bon. On va où? Ou du train, ou peu importe. Ou pas Google Maps. On dit on va dans quelle direction? On va par là. On va par là. Puis on va trouver un truc. Bon, bah, et si on trouve rien, on trouve rien, mais on va par là. Il faut accepter. En fait, je pense qu'il faut accepter de galérer quand même. Tu vois, il y a des gens, bah, la galère, elle leur tombe dessus, ils l'ont pas cherché. Et je pense que si la galère, elle tombe pas dessus, il faut la chercher. Je pense. Il faut la calculer. Il faut pas la chercher n'importe où. Mais je pense que ça fait du bien, surtout quand on est jeune. Ça crée des armes, tu vois. Je pense que c'est pas pour rien que, les artistes, parmi les artistes les plus influents, on en a beaucoup qui sont nés dans des contextes extrêmement durs, qui ont grandi dans des contextes extrêmement durs. C'est des gens qui ont réussi à tourner de ces événements très difficiles des outils qui vont garder toute leur vie, en fait. Et je pense que si t'es pas dans des conditions difficiles, eh ben, des fois, je pense qu'il faut s'y mettre.
Il faut se les créer, quoi.
Il faut se les créer, ouais.
Un peu comme quand tu vas te programmer pour un spectacle, quand tu vas partir à l'étranger tout seul, toutes ces choses qui te stressent un peu, en fait, c'est ça?
C'est ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent comment on fait pour se lancer en humour. Je dis, c'est simple. Tu trouves une soirée d'humour où tu peux jouer et tu te la bookes dans 3 mois. De toute façon, on te donnera pas de place avant ça. Dans 3 mois, les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant tout le temps. Il dit, mais fais ta place. C'est le premier truc. Faut être patient. Passe par ça. Tu dis, tu veux monter sur scène? Très bien. Trouve un endroit où tu peux jouer, trouve-le, débrouille-toi, trouve-le, fais tes recherches, va voir, débrouille-toi, trouve un endroit où comment ils ont fait les autres, débrouille-toi, et trouve un endroit où tu peux jouer, trouve un moyen d'avoir une date, mets-la dans 3 mois, si tu penses que t'es capable de le faire en 2 mois, mets-le dans 1 mois, tu vois ce que je veux dire? Mets-toi dans des conditions difficiles et vas-y, fais-le.
Il faut chercher un genre de stress, en fait, en permanence, c'est ça?
Une sorte de pression, ouais. Il faut se mettre dans des conditions où t'as pas le choix d'être meilleur que toi pour t'en sortir. Je pense qu'on n'est jamais sûr de si on est capable avant qu'on l'ait fait, tu vois. Ça paraît aussi un peu bateau, mais c'est vrai. Tu vois, moi, je pensais pas que j'étais capable de faire une heure de spectacle avant de le faire, en fait.
Mais ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Personne pensait qu'il pouvait courir un mile en dessous de 4 minutes jusqu'à ce qu'un mec le fasse.
Exact.
Et ensuite, tout le monde s'est mis à le faire.
Voilà.
Tu vois.
En fait, à partir du moment où dans ta tête, tu te dis que
Bannister,
c'est possible.
Le mec, pardon.
Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis dans ta tête, c'est possible. C'est ça qu'ils font. Le gars qui bat le record, ce qu'il envoie comme message à tout le monde, c'est possible. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus simple pour tout le monde. Une fois que quelqu'un l'a fait, c'est plus simple pour tous les autres. Et je pense qu'il faut faire ça avec soi-même. Il faut que tu te dises, c'est possible. Je vais le faire. C'est tout. Je vais le faire. Il n'y a pas de « je veux le faire », dis « je vais le faire ». C'est tout. Et il y a un gros truc de persévérance aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je pense que... c'est une phrase aussi que j'avais lue, que moi j'aime beaucoup, mais là, je pense que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est celui qui réussit, c'est celui qui a juste pas arrêté, en fait. Il a échoué aussi. Et il a échoué sûrement autant. C'est celui qui échoue plus, même. Mais qui n'arrête pas d'échouer, en fait, tu vois. Qui n'arrête pas d'essayer, qui n'arrête pas. C'est un grand truc de persévérance, tous ces domaines. Et je pense que ça s'applique à tous les domaines. Toute cette idée de, non, vas-y, fais-le. En fait, fais-le jusqu'à ce que ça marche. C'est pas si ça marche pas, j'arrête. Fais-le jusqu'à ce que ça fonctionne.
Ouais, laisse aucune chance à ce que ça fonctionne pas.
Voilà.
Quoi.
Si ça fonctionne pas maintenant, travaille encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Et quand ça va fonctionner, tu vas être heureux d'avoir fait ça. Si ça fonctionne pas, c'est que t'as encore des choses à apprendre. Donc, trouve le moyen de les apprendre. Apprends-les. Trouve-les. C'est vraiment ça, je pense.
Merci beaucoup, Roman.
Ça fait plaisir.
D'être venu sur Nouvelle École. Les gens qui s'intéressent à toi, où est-ce qu'on les envoie?
Alors, sur Facebook. Sur Facebook, c'est là-dessus que je mets le contenu le plus travaillé. Donc, c'est là où il y a souvent des passages scènes ou alors des vidéos un peu fiction. C'est vraiment les trucs les plus travaillés. C'est le vrai contenu. Et sur Instagram, c'est plus le truc un peu perso. Je fais des vidéos, on tape des barres. C'est beaucoup plus léger et tout. C'est beaucoup plus personnel. Et puis voilà, on essaie de rester joignable aussi. S'il y a des questions que les gens n'hésitent pas sur Instagram, je réponds beaucoup. Donc, voilà, c'est les deux principaux.
What's up? Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelle-école.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.